Help! Pour qui voter?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Help pour qui voter. On vous rappelle le concept, chaque semaine, un thème spécifique est approfondi avec les présidents de partis francophones.
La semaine passée, nous avons parlé de l'avenir de la Belgique. Et cette semaine, nous allons parler économie. Vous le savez peut-être, mais la situation budgétaire belge est assez catastrophique.
Notre déficit en 2023 s'élevait à 27 milliards, et sur le long terme, ce n'est pas tenable. Nous avons demandé dès lors à chaque président de parti leurs recettes afin de garantir la soutenabilité des finances publiques.
On commence tout de suite avec Paul Magnette pour le Parti Socialiste.
Alors c'est un vrai enjeu, moi je prends toujours au sérieux la question de la soutenabilité des finances publiques, parce que quand on est socialiste, on croit dans l'État, on croit dans les services publics, on croit dans la sécurité sociale. Et donc il faut que les comptes de l'État, des services publics et de la sécurité sociale soient à l'équilibre, sinon on fragilise la puissance publique. Sinon on en arrive à un moment donné, on n'arrive plus à payer, et puis on fait des politiques d'austérité épouvantables, dont les citoyens sont les premières victimes. Alors comment est-ce qu'on fait ça? D'abord en ayant une trajectoire de réduction des déficits qui soit une trajectoire raisonnable. Si on veut tout d'un coup diminuer de manière drastique les déficits, on crée de la casse sociale. Et on aggrave la crise et on aggrave les déficits. On l'a vu après la crise financière de 2008, les pays qui ont appliqué des politiques d'austérité n'ont fait que prolonger la récession et n'ont fait que prolonger la crise économique. Il faut la faire au gré de la croissance et au gré du rythme de l'activité économique. C'est ce que j'ai proposé dans l'accord de gouvernement existant et qui a été suivi. On fait une part d'efforts fixe chaque année. Et puis le reste est variable. Si on a une bonne année économique, on fait un peu plus d'efforts. Si par contre on est en période de récession, on fait moins d'efforts pour ne pas casser la machine économique. Et puis, je pense qu'il faut surtout se dire que la meilleure manière de combler les trous dans le budget de l'État, c'est de renforcer les salaires. Chaque fois qu'on augmente les salaires de 2%, donc chaque fois qu'il y a eu une indexation pour suivre l'inflation, eh bien ça rapporte 2 milliards d'euros au compte de l'État et de la sécurité sociale, puisqu'il y a une masse salariale plus importante. Donc vous allez prélever le même taux, hein, on n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les taux de cotisation sociale, mais sur des salaires qui sont plus importants, et donc ça génère davantage de recettes et ça permet de réduire les déficits sans mettre les citoyens en difficulté. Taxer la fortune à l'échelle de l'Europe, si on le fait à l'échelle belge, et on l'a fait, hein, sous ce gouvernement, on a remis en place une taxe sur le patrimoine financier, qui rapporte déjà à peu près 500 millions, mais si on le fait à l'échelle européenne, on est beaucoup plus fort, et on peut générer 200 milliards de recettes par an, en taxant les multinationales d'un côté et en taxant les grosses fortunes de l'autre, et faire en sorte qu'on puisse alors financer la transition climatique et la transition sociale. Et donc les citoyens sont invités, et vos auditeurs en particulier, à soutenir cette initiative.
Être riche, c'est à partir de quel montant exactement?
Ce qu'on appelle les ultra-riches, c'est les 1 à 2% les plus riches de la population qui, en moyenne, ont des patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros. Donc, c'est vraiment une toute, toute petite partie de la population. 2 millions d'euros, bon, voilà, il n'y a pas grand monde qui a un patrimoine de tel niveau. Et donc, tous les autres, 98% de la population, n'est pas concerné par cette taxation de la fortune.
Germain Mugemangango, porte-parole du PTB.
Bah, d'abord, je crois qu'on doit avoir l'honnêteté de dire à ceux qui nous écoutent que dire qu'en Belgique, il n'y a pas d'argent, c'est faux. Donc, en fait, il y a plein d'argent en Belgique. La question, c'est qui le possède. Donc, évidemment, donc, en Belgique, par exemple, en 2000, il y avait un milliardaire, et maintenant, il y a 41 milliardaires en Belgique. Donc, je crois que tout le monde peut le constater. Le fossé entre les personnes qui ont des difficultés, qui sont pauvres ou qui ont des grandes difficultés, et les personnes qui sont riches, il est en train de s'élargir. Donc, souvent, on dit, hein, quelle que soit la définition qu'on lui donne, la classe moyenne, elle disparaît. Et donc, ce qui est vrai en tout cas, c'est que le fossé s'élargit. Et il s'élargit pourquoi? Parce qu'on est dans un pays, justement, qui a tendance à privilégier, évidemment, les grosses fortunes, les personnes qui sont déjà milliardaires, par rapport, justement, aux personnes qui sont travailleurs, travailleuses, indépendantes. Et donc, on le voit par différents mécanismes. Le mécanisme de l'impôt, par exemple. Quand on constate qu'un travailleur ou une travailleuse en Belgique peut être imposé jusqu'à 45%, alors que le taux d'imposition qui est imposé aux multinationales, et donc, quand on voit, il est officiellement de 25%, mais en réalité, avec toutes les niches fiscales qui existent, il est souvent plutôt de 16%, et certaines multinationales payent encore beaucoup moins d'impôts. Donc là, il y a déjà un problème en termes de fiscalité. On peut déjà reconnaître qu'un grand échec de ce gouvernement Vivaldi, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme fiscale. Donc ça veut dire en fait que les indépendants, les indépendantes, les travailleurs et les travailleuses continuent à être les vaches à lait du système, alors que les multinationales, elles, profitent de la situation. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Donc voilà, nous, on est pour une taxe des millionnaires. Donc ça, c'est, on défend ça déjà depuis très longtemps. Donc cette taxe des millionnaires devrait rapporter en principe, au bas mot, 8 milliards d'euros. C'est 8 milliards d'euros pour être investi notamment pour soutenir la sécurité sociale qui est en déficit, ou pour soutenir, par exemple, aussi l'enseignement dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on pourrait faire beaucoup de choses par rapport à ça. La fraude fiscale est un vrai problème en Belgique. Et j'ai pas ici en tête la petite fraude fiscale qui existe aussi, bien sûr. Mais je parle surtout de la grande fraude fiscale qui, en fait, si on devait réellement pouvoir la poursuivre, pourrait rapporter certainement 10 milliards d'euros à la Belgique. Quand on voit les chiffres qu'avance la Cour des comptes, par exemple, la Cour des comptes explique qu'il y a plus de 300 milliards d'euros qui vont vers les paradis fiscaux, entre la Belgique et les paradis fiscaux. 300 milliards d'euros, c'est un quart de toutes les richesses qui sont produites en Belgique. Et donc, pourtant, on constate que gouvernement après gouvernement, au lieu de justement renforcer les effectifs du ministère des Finances, qui devrait alors pouvoir contrôler, évidemment, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller contrôler une multinationale que d'aller contrôler, évidemment, le magasin du coin. Hein. Donc ça, c'est clair. Il faut plus de personnel, il faut plus de compétences pour ça. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, de gouvernement après gouvernement, on enlève finalement des effectifs au ministère des Finances. Ce qui n'a donc aucun sens, puisque les effectifs au ministère des Finances rapportent de l'argent, au lieu, justement, de dépenser de l'argent. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, on constate qu'il y a beaucoup d'argent, évidemment, en Belgique, mais qu'on a des forces politiques, des partis traditionnels, PS, MR, Écolo engagés, qui ne veulent pas aller chercher l'argent là où il est. Ils préfèrent continuer à chercher l'argent dans les poches des travailleurs et des travailleuses et des indépendants. Le PS vient avec cette fameuse taxe compte-titres. Hein. Donc, oui, mais on a fait la taxe compte-titres. Cette taxe compte-titres, elle rapporte 400 millions d'euros. 400 millions d'euros par rapport au montant dont que j'ai indiqué qui pourrait effectivement nous fournir 10 milliards si maintenant on attaque sérieusement la fraude fiscale et 8 milliards d'euros si on s'attaque effectivement, si on met une taxe des millionnaires en place. Donc 400 millions d'euros, et ces 400 millions d'euros, c'est qui les paye ? C'est pas les multinationales, c'est pas les grandes fortunes. Parce que les cours des comptes expliquent que leur argent n'est pas sur des comptes titres. Donc finalement, on s'attaque à qui ? On s'attaque en fait à une certaine classe ouvrière qui est peut-être un peu plus aisée que les autres, ok ? Ou les indépendants qui sont un peu plus aisés que les autres, cette fameuse classe moyenne, c'est à eux qu'on s'attaque finalement. Donc encore une fois, finalement, ben, les plus riches sont protégés, alors que finalement les autres sont en train de payer. Et donc pour nous, c'est le premier élément, c'est qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Et pour ça, il faut avoir, évidemment avoir un certain courage politique. Le second élément, c'est que suite à ce discours où on dit « il n'y a pas d'argent », ce qui est faux, ça je viens de le démontrer, on dit alors « il faut appliquer l'austérité ». Ben, l'austérité, c'est quoi ? L'austérité, ça veut dire moins de services publics, ça veut dire moins d'argent pour l'enseignement, ça veut dire moins d'argent pour la culture, ça veut dire moins d'argent pour les couches de la société qui en ont besoin, les jeunes, les travailleurs, les travailleurs, les indépendants. C'est ça que ça veut dire l'austérité. L'austérité n'est pas une solution. L'austérité, c'est le problème. Parce que l'austérité casse complètement, en fait, finalement, le moteur de l'économie. C'est ça qui se passe.
Maxime Prévost, président des Engagés.
C'est un vrai problème pour lequel il n'y a pas de solution miracle de court terme. S'il suffisait d'une baguette magique pour assainir toutes les finances publiques, ça se saurait. Par contre, je pense qu'on doit à un moment donné être lucide. On ne peut pas continuer à vivre au-delà de ses propres moyens financiers. Ce n'est pas de tenade dans un couple. Quand vous êtes un ménage et que finalement vous dépensez plus que ce que vous gagnez, tôt ou tard, c'est le crash, il y a un problème, vous n'arrivez plus à payer vos loyers, vous êtes expulsé, il y a des stutes. Ben, un État, heureusement, un peu plus de souplesse pour les dépenses, et notamment l'endettement, mais on sait que Sky n'est pas la limite ici. Hein. Et donc, on doit, à un moment donné, avoir un rendez-vous avec la vérité, et moi, je pense que le prochain gouvernement, quelle que soit sa composition, devra avoir un discours vérité vis-à-vis des citoyens, en disant qu'il va falloir réduire la voilure d'une série de dépenses. Nous, on estime qu'il y a certainement plusieurs milliards d'économies qui peuvent être faites, quand on fera une analyse anti-gaspillage des dépenses publiques qui sont faites. Non seulement au sein des structures et lasagnes de politique, il y a beaucoup trop de députés, nous voulons en réduire le nombre, il y a trop de ministres, nous voulons en réduire le nombre, mais même ça, ça ne va pas révolutionner le budget de l'État, et donc il faudra aller plus loin. Dans cette évaluation des politiques publiques qui est, à mon sens, indispensable à mettre en œuvre, parce qu'on a parfois historiquement des politiques qui sont menées parfois depuis des années, sans qu'on ait pris la peine de mesurer leur efficacité réelle. Nous, on est très clair du côté des engagés, on estime que ceux qui doivent d'abord contribuer, c'est pas les citoyens qui sont déjà à la peine pour pouvoir nouer les deux bouts, c'est pas les petits indépendants ou les PME qui galèrent, c'est d'abord les spéculateurs, les pollueurs, les fraudeurs. Donc ceux qui ont des comportements finalement contraires aux intérêts collectifs de la société. C'est légitime de vouloir gagner de l'argent. Après, il faut voir comment on le fait. Et la spéculation, souvent, entraîne effectivement un marché qui ne fonctionne plus bien, et les premières victimes sont celles et ceux qui ont envie de pouvoir jouer le jeu correctement, y compris simplement en ayant un logement, sans qu'il y ait une spéculation qui envole les prix à la hausse. La fraude, bah, elle n'est pas acceptable, même si c'est devenu parfois un sport national en Belgique. Il faut reconnaître que ça se fait au détriment, alors, toutes ces recettes en moins de l'État, des capacités de celui-ci d'assumer les recrutements nécessaires dans la police, le financement utile dans les hôpitaux, le financement des pompiers, le financement des politiques de l'emploi, de la justice, et blablabli, et blablabla. Et donc, il faut être conscient que toute fraude a un coût collectif qui est majeur, bien entendu. Et les pollueurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, la réalité de l'urgence climatique, elle impose que nous repassions au crible l'ensemble des politiques qui sont menées pour voir quel est leur impact aussi en matière environnementale et rectifier le tir. Et donc là-dessus, il sera nécessaire de repenser différemment la fiscalité et donc d'avoir une part contributive des uns ou des autres qui sera variable en fonction du créneau dans lequel ils se trouvent. On est aussi demandeur, par exemple, d'avoir une approche plus globale des revenus. Il n'est pas normal à notre estime aujourd'hui que 1 euro des revenus du capital soit taxé différemment d'un euro issu des revenus du travail. On a encore un mécanisme fiscal issu de l'après-Seconde Guerre mondiale où finalement l'État à l'époque il a taxé ce qu'il y avait de plus disponible, c'est-à-dire les travailleurs, puisqu'il n'y avait plus guère de capitaux. Mais maintenant c'est plus possible. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus beaucoup de croissance. Donc le gâteau n'augmente pas. Mais la population, oui. Donc mathématiquement, chacun a une plus petite part du gâteau. Et comme on vient de générations qui n'ont pas été habituées à devoir faire des efforts en termes de bien-être, puisque les années qui se sont écoulées ayant été des années de croissance, à chaque fois qu'il y avait des revendications sociales, il y avait des moyens financiers pour les rencontrer. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, comme on ne vit pas très bien sa moindre qualité de vie par rapport à ce qu'on pensait, aujourd'hui, la plupart des enfants pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Il faut trouver des coupables. Et donc c'est évidemment à cause des politiciens qui ne foutent rien à part penser à leur poche, c'est évidemment les chômeurs qui, selon certains, ne foutent rien à part glander, c'est évidemment les patrons qui ne pensent qu'à pouvoir aussi frauder, maximiser leurs profits, c'est l'étranger qui vient bouffer le pain chez nous, tout ça sont des caricatures qu'on entend régulièrement et qui créent finalement des tensions qui sont problématiques pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et donc c'est extrêmement important qu'on ait des réponses pertinentes sur le plan de la juste répartition des richesses et des moyens, parce que sinon c'est la société qui risque de voler en éclats, les extrêmes alors qui déboulent à tout va, de gauche comme de droite, et on le voit déjà partout ailleurs en Europe, les replis identitaires qui sont en train de gagner du terrain.
François de Smet, président de DEFI.
Alors là, les entités fédérées francophones en particulier, mais, et l'État fédéral, et même la Flandre, même si elle va mieux que les autres, n'est pas en pleine forme, on va arriver droit dans le mur avec un effet d'emballement des intérêts, si les intérêts remontent trop, qui vont nous remettre dans la situation des années 80, où il y a un moment, la dette, vous ne pouvez pas la rattraper parce que les intérêts finissent par s'emballer tout seul et que c'est irrattrapable. On ne va pas échapper à des réformes fortes, notamment des réformes fiscales et de marché du travail, pour faire en sorte qu'il soit plus facile de mettre des gens au travail, dans un contexte où, en même temps, on est supposé décroître de manière sobre. Donc, il y a une contradiction qui va rapidement se poser, mais soit. Une vraie réforme fiscale, pas celle qui a été ratée par la Vivaldi, même s'il y avait des bonnes choses dedans, mais une réforme qui simplifie le système. Une réforme qui fasse en sorte que travailler rapporte quand même plus, vraiment plus que le fait de ne pas travailler, ce qui n'est pas le cas à tous les coups. Vous devez avoir quand même un différentiel, à mon avis, d'au moins 500 euros entre le travail et le non-travail pour pousser les gens à se lever le matin. Et c'est pour ça que c'est la classe moyenne. Les plus pauvres, il faut les aider aussi, mais il y a toute une partie de la population qui est juste trop riche pour ne pas bénéficier des aides sociales et juste trop pauvre pour ne pas être matraqué fiscalement. Et je crois que c'est celle-là qui est le plus en colère, et c'est la majorité des gens, et franchement, je les comprends. Il va falloir simplifier un certain nombre de structures, même si le coût de la démocratie, entre guillemets, en Belgique, c'est peut-être 1% du PIB, donc c'est pas en forçant les parlementaires et les ministres à travailler gratuitement que vous allez résoudre la dette publique, mais dans le symbole, notamment dans la gabegie d'un certain nombre de dépenses publiques, ça fera du bien. Et puis, une mesure toute simple, ça va être de pousser les gens à travailler plus longtemps. On a un âge officiel de la pension à 67 ans, mais quasi personne ne va jusque-là. Beaucoup de gens partent 5, 10 ans, voire plus, avant. Or, si vous voulez avoir un taux d'emploi haut et donc avoir plus d'argent dans les caisses et donc faire en sorte de garantir notamment les pensions des autres, faut trouver un moyen de valoriser l'emploi des seniors. Alors, c'est pas nécessairement simple. On peut pas sans doute les employer de la manière qu'ils ont été employés avant. Il y a la fatigue du corps et de l'esprit, mais il y a rien à faire. Dans un monde où on vit de plus en plus vieux, le taux d'employabilité des seniors doit aussi trouver une manière d'être amélioré. Donc, on a dans nos cartons une réforme fiscale basée sur d'abord une plus grande transparence, une plus grande justice, beaucoup moins de niches fiscales, 6 niveaux de taxation plutôt que 4, et en effet une plus grande globalisation des revenus. Si on est dans l'idée qu'il faut que le système soit plus simple, c'est normal de se dire qu'à un moment, faut globaliser tous les revenus du travail d'un côté, tous les revenus du capital de l'autre. On pourrait même imaginer tous les regrouper d'un coup, pourquoi pas, mais pour nous, il faut les faire par étapes. Et tous que tous ces revenus soient taxés au même niveau. Au nom de quoi, au fond, est-ce qu'on taxe différemment des dividendes, des loyers, des revenus? C'est quand même assez particulier parce que ça provoque une injustice liée à la manière dont un patrimoine ou un capital se constitue. L'idée d'avoir une plus grande globalisation permet plus de justice et permet de s'attaquer au phénomène des niches fiscales. Alors on peut en garder une ou deux, mais il y a des niches fiscales qui sont complètement injustes. Je pense au système des voitures salaires, par exemple, qui sont un manque à gagner de 2 milliards environ par an pour la Belgique, pour un avantage fiscal consistant à avoir une bagnole, qui donc pour partie est payée par la collectivité et pour partie est payée par un employeur, parce qu'il ne peut pas payer comme il le voudrait son employé, parce que les taxes sur le travail sont elles-mêmes trop grandes. Donc il y a quand même une certaine logique à diminuer tout simplement les taxes sur le travail. Et supprimer cette espèce de prime à l'ego, parce que finalement, c'est ça.
Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo.
Donc, pour Ecolo, la soutenabilité des finances publiques, elle est extrêmement importante, justement, pour pouvoir investir massivement dans la transition. C'est un enjeu qui est important. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir, justement, investir énormément ces prochaines années pour la transition. On va devoir investir massivement pour rénover, pour développer des énergies renouvelables, pour développer les transports en commun. C'est des investissements climatiques qui vont rendre notre société beaucoup plus résistante, beaucoup plus résiliente face au choc du dérèglement climatique qui arrive. On a parlé tout à l'heure des inondations. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est maintenant qu'il faut agir. Ça coûtera moins cher d'agir maintenant que plus tard. Aujourd'hui, on peut encore choisir ce dans quoi on investit. On peut encore prendre un chemin qui va nous permettre de sortir. Et par contre, ceux qui disent que ça coûte cher, en fait, l'inaction coûte, en matière climatique, l'inaction coûte beaucoup plus cher que l'action climatique. Et donc, si on investit aujourd'hui, ça nous coûtera 5 fois moins cher dans les générations futures. Ça, c'est une question de soutenabilité qui est essentielle et qu'on oublie parce que aujourd'hui, un des principaux freins de PIB, du développement économique, etc., c'est le dérèglement climatique. Et je l'ai dit, c'est des choses qui nous coûtent en vie humaine. Le dérèglement climatique, ça coûte en vie humaine d'une part, et c'est dramatique. Ça coûte également en finances publiques. Et donc, pour nous, c'est essentiel d'agir dès aujourd'hui parce que ça nous permettra d'économiser demain et de pouvoir faire face au choc du dérèglement climatique. Il y a certains partis de droite notamment qui pensent qu'en coupant dans les dépenses sociales, on fait des économies, alors que ce n'est pas vrai, parce que ça impacte en fait les personnes les plus précarisées, ça impacte les personnes les plus défavorisées, ça nous coûte plus au final à la collectivité, et ça coûte plus en termes de soins de santé, en termes de gestion pour la suite. Et donc, ça n'est pas vrai pour nous. Il y a des dépenses qui sont, entre guillemets, inutile et néfaste et qu'on doit pouvoir supprimer progressivement. Un exemple, c'est, et vous ne serez pas surpris que je le dise, c'est la question de la voiture salaire. Ça, c'est quelque chose qui est inégalitaire. Moi, je préfère qu'on paye les gens en argent, pas en voiture. Je préfère qu'on paye les gens avec des euros, pas en carburant. Et en plus, ça ne concerne que certaines personnes. Donc, je trouve que c'est un système qui est profondément inégalitaire et qui coûte 2,5 milliards par an à la collectivité. Et c'est seulement les 10% les plus riches qui ont qui possède près de 50% des voitures de société. Donc c'est profondément inégalitaire et pour nous, il est essentiel de revoir cette dépense-là, par exemple. Et je préfère vraiment, moi en tout cas, si on me demande est-ce que tu préfères avoir une carte essence ou quelques centaines d'euros en plus à la fin du mois, mon choix il est vite fait, je préfère avoir quelques centaines d'euros en plus à la fin du mois.
Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur.
Et je pense par rapport à ça qu'on doit à un moment donné être un peu clair avec nos concitoyens. Il n'est plus possible de garder un tel niveau de dépenses publiques. C'est d'autant plus pas possible que c'est même pas utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'équivalent de 55% de notre PIB qui part en dépenses publiques. Les Pays-Bas, titre de comparaison, on est à 45-46%, 10 points de moins que nous. Et donc aujourd'hui, on dépense énormément d'argent public. Mais quand vous regardez, les gens sont pas contents de la qualité des écoles, les gens sont pas contents de la qualité des routes. On a quand même une mobilité assez désastreuse. La justice va pas assez vite. On n'a pas de place pour le réseau fait d'asile. Donc on se dit, mais où va l'argent ? Donc oui, la première priorité, c'est la remise au travail. Deuxième priorité, la réduction du gaspillage public. Donc réduction du nombre de ministres, de députés, mais aussi toutes les structures parapubliques, avoir un financement de la formation qui est beaucoup plus efficace, revoir la dotation de la RTBF, supprimer le rôle public des mutuelles qui aujourd'hui coûte plus d'1 milliard d'euros chaque année. Donc en Belgique, on vit sur des vestiges du passé qui n'ont plus beaucoup de sens. Mais si on ne fait pas ces efforts-là, on va dans le mur. La situation budgétaire de Bruxelles et de la Wallonie sont catastrophiques. Il y a des taux de dette sur recettes qui sont de plus de 200%, donc plus élevés qu'en Grèce. Et en plus, la Belgique a un autre inconvénient majeur, c'est que le coût de notre vieillissement est plus élevé qu'ailleurs. C'est-à-dire que notre vieillissement représente 2,5% du PIB, alors que dans pas mal de pays européens, c'est moins de 1% du PIB. Et donc aujourd'hui, on a par exemple une population plus vieille et qui coûte plus cher âgée qu'en Grèce, par exemple. Donc oui, les indicateurs sont vraiment très très mauvais et donc des réformes sont nécessaires dès 2024. Alors la globalisation, pour être clair, on pourrait être pour, mais à condition que l'impôt ne dépasse pas 30%. Mais aujourd'hui, si vous faites une globalisation des revenus, ça veut dire que vous allez taxer 100% des Belges à plus de 50%. Pour une raison qui est très simple. Aujourd'hui, quand vous gagnez 40 000 euros par an, ça veut dire l'équivalent de plus de 90% des travailleurs en Belgique. Chaque euro que vous gagnez au-delà est taxé à 50%. 40 000 euros par an, c'est pas dingue. Je parle en revenu brut, hein, pas en revenu net. Mais donc, c'est pas du tout quelque chose d'excessif parce que quand vous êtes à 4 000 euros brut par mois, ça veut dire que vous gagnez moins de 2 000 euros net. Donc, il y a quand même, Dieu merci. Par exemple, si vous êtes un enseignant avec 10 ans d'expérience, vous pouvez gagner 2 500 euros net par mois, par exemple. Donc, vous n'êtes pas riche avec ça. Et donc aujourd'hui, le niveau d'impôt est beaucoup trop élevé. Donc si vous ajoutez à ça les revenus du compte d'épargne, des loyers, etc., ben vous allez juste massacrer les gens, vous allez juste considérablement augmenter l'impôt. Donc il y a deux possibilités. Soit on maintient un niveau fiscal comme celui-ci, et alors dans ce cas, il faut garder des mécanismes fiscaux qui donnent un peu d'oxygène. Soit vous baissez l'impôt et vous dites voilà, pas d'impôt à plus de 30% et là vous pouvez faire une globalisation. Deuxième élément, voiture de société, même chose. Une voiture de société, c'est l'équivalent en termes de pouvoir d'achat de 500 à 1000 euros par mois pour le travailleur qui en bénéficie. C'est le coût d'une voiture. Si vous regardez votre crédit voiture, les entretiens, l'essence, l'assurance, l'amortissement, c'est ça. Qui va leur donner 500 à 1000 euros de cash ? Pour donner 1000 euros par mois à un travailleur, l'employeur doit déposer 2000-2200, donc il ne le fera pas. Donc résultat des courses, si vous supprimez les voitures de société, ok, mais alors il faut diminuer drastiquement les cotisations sociales. Après la proposition du MR, parce que se faire payer en voiture, ce n'était pas le truc le plus intelligent, c'est de permettre dans le futur, si jamais notre proposition est acceptée, c'est de dire à quelqu'un qui a une voiture de société qu'il peut abandonner sa voiture de société, mais prendre l'équivalent en argent pour rembourser son crédit hypothécaire. L'idée étant de faciliter l'accès à la propriété. Pourquoi ? Ben parce que souvent, en Belgique, on doit faire. Les gens achètent une maison au début de leur vie. Et puis, après, s'ils vont travailler à plusieurs kilomètres de là, plusieurs dizaines de kilomètres de là, ils gardent la même maison. Et donc, l'idée de pouvoir rembourser le crédit hypothécaire, c'est aussi pour faciliter le déménagement, peut-être, de personnes. Sans devoir faire face à des coûts qui sont trop élevés. Par exemple, c'est un grand avantage pour Bruxelles, parce que l'immobilier étant plus cher à Bruxelles qu'en Wallonie, le fait qu'on ait la possibilité d'échanger sa voiture contre une partie, tout ou partie de son crédit immobilier, Mais ça permettrait à plus de gens de vivre à Bruxelles ou aux alentours de Bruxelles et donc de faire de moins de kilomètres le matin.
Sur un thème comme l'économie, pas étonnant de voir un clivage gauche-droite avec le centre qui tente la synthèse.
Pour résumer, à gauche, on veut taxer les riches et augmenter les salaires pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et éviter à tout prix l'austérité.
Le centre veut rationaliser les dépenses de l'État et globaliser les revenus pour le calcul des impôts.
La droite se concentre surtout sur l'efficacité publique, étant de base contre la globalisation des revenus, ainsi que la suppression de la voiture salaire.
Cette suppression est par contre défendue par tous les autres partis dans le cadre d'une grande réforme fiscale. L'Europe l'a annoncé, les règles budgétaires seront plus strictes dès la prochaine législature.
La Belgique n'échappera probablement pas à des réformes. À voir si elles seront plutôt d'inspiration de gauche ou de droite.
Enfin, pour finir avec une note plus légère, vous savez qu'on termine chaque épisode par une question bonus. Aujourd'hui, quelle chanson choisissez-vous pour un karaoké? On vous laisse découvrir les réponses et on se retrouve la semaine prochaine pour parler mobilité.
Alors d'abord, je suis fan de karaoké, j'adore ça. Et j'aime beaucoup My Way Sinatra, Mexico pour l'ambiance et puis beaucoup de Johnny.
Pour un karaoké, les temps changent d'MC Solar parce que je la connais par cœur, donc au moins je dois pas lire.
Ah, moi j'aime bien Bella Ciao.
Moi j'aime bien Les Lacs du Connemara par exemple, même si je sais que ça fait débat, mais je trouve que c'est une grande chanson populaire. Voilà.
Pour un karaoké, je dirais Enjoy the Silence de Depeche Mode.
Il y en a plein, mais moi je suis une vraie machine au karaoké. Alors certains m'appellent le jukebox, je suis désolée. Donc moi tu me donnes un mot ou deux mots et je suis lancée. Donc j'aime beaucoup, cela dit, ce qui marche vraiment bien au karaoké, c'est Céline Dion. Quel que soit le titre de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, ou avec Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras. Je pense que c'est toujours des bons plans pour les karaokés.
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne pas louper un nouvel épisode. Enfin, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup.
Help! Where are you?